L'important de cette BD est un travail remarquable fait par excellent, une précision remarquable, exceptionnelle. C'est beau, les dessins sont bien faits et c'est David Caron qui a rédigé avec et Gérald en a fait l'impression.
Mais Gérald va peut-être expliquer un petit peu son projet.
Gérald, il ne voulait pas parler, il voulait pas que je fasse de pub, donc j'en ai fait. Voilà.
Merci. D'habitude, c'est l'entracte qui fait l'occasion de pub. Oui, alors c'est une rencontre fantastique avec David, pour ceux qui le connaissent, qui fait partie de la famille. David et Gabriella. David et Gabriella, les deux sont co-auteurs, co-scénaristes de cette œuvre incroyable. Et foyer ami, absolument. Voilà, donc l'idée est née comme ça entre nous, un petit peu sur un ton presque désuet et humoristique. Et puis finalement, ça s'est fait. Il faut juste savoir qu'une BD, c'est un travail énorme qu'ils ont fait. C'est un budget énorme, surtout pour une petite société comme nous, d'édition. Et en fait, Marie avait vraiment envie que ce soit nous qui le fassions, qu'il l'éditions. Parce qu'elle nous a tout mis dans les mains, elle nous a mis David et Gabriella, elle nous a mis l'illustrateur François Rocher qui est tombé du ciel, elle nous a trouvé les financements, et puis voilà, ça s'est fait, et là on est déjà à la deuxième impression, on va attaquer la troisième impression, parce que ça part comme des petits pains. Les commandes voilà, sont conséquentes et régulières de la part de toutes les librairies qui la commandent. Et puis grâce aussi à la publicité de Mini. Voilà. Donc merci, si vous voulez la procurer, il y en a ici. Moi je suis de l'autre côté, mais voilà, vous nous trouvez avec Alma. Et on sera très heureux de reverser un petit pécule au de Mini.
Et surtout, c'est quelque chose qui est très précis, comme vous dites Béatrice.
Et alors si vous n'avez pas encore la foi, ça va vous montrer que voilà, ça existe réellement.
Voilà. Alors, puisqu'on est encore 3 minutes, on commence dans 3 minutes, il faut beaucoup prier pour les vignerons, parce que Cédric, qui a des vignes dans Angers, à côté d'Angers, une grande partie de ses raisins sont tout brûlés. Voilà, donc c'est... Alors, il faut prier Saint-Joseph pour que quand même là, vous puissiez faire une vendange. Et c'est vrai qu'il faut demander aux prêtres de dire des messes pour demander la pluie. Hein. Mais enfin, c'est vrai que pour les agriculteurs, les viticulteurs, la situation est compliquée. Compliquée. Voilà, alors, on va invoquer l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de Dieu, viens nous embrasser. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Vous êtes bénie entre tous, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Qui est mon nouveau, maintenant et à l'heure.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Je vois qu'il n'y a plus de bouteilles d'eau. Il doit bien y avoir les frères. Frère Simon, je sais pas, il faudra amener quelques bouteilles d'eau pour les... Hein? Voilà. Parce que la chaleur continue. Alors le titre de ce témoignage, c'est « La joie dans notre famille et Domini », témoignage sur le père et mère Marie-Augusta. Donc, bien chers amis, la joie est très présente dans notre patrimoine spirituel Domini, comme l'a dit tout à l'heure frère Clément-Marie. Le père parlait souvent de la joie. Il était joyeux et Mère Marie-Augusta rayonnait également la joie de Jésus. Les cœurs étaient conquis par leur joie communicative. À leur école, nous devons comprendre l'importance du rayonnement de cette joie qui vient de notre union à Jésus. Notre fondateur avait la ferme conviction que la pureté est source de grande joie et d'épanouissement. La pauvreté évangélique dans l'esprit de Saint François procure la joie parfaite. L'obéissance permet de vivre libéré de la prison de son moi et de connaître la joie des enfants de Dieu. La souffrance dans l'amour pour enfanter les âmes pour le ciel fait partager la joie de Saint Paul, Colossiens 1, 24. Pour ceux qui parmi vous ne connaissent pas nos fondateurs, il est important de rappeler brièvement que le Père Lucien Marie Dorn, notre fondateur, leur photo là, sous Notre-Dame, là, sous Saint-Joseph, pardon. Voilà. Donc, notre fondateur est né le 2 juillet 1914 à Andancet, dans la Drôme, mais il n'est pas, je dirais, c'est pas la Drôme qui est son département, c'est l'Ardèche. Cette année-là, son père a travaillé à Andancet, dans la Drôme, et c'est pour ça qu'il est né dans la Drôme, mais leur maison familiale était Privas. Et il a vécu son enfance, son adolescence, sa jeunesse à Privas, qui est la préfecture de l'Ardèche. Il a collaboré pour notre fondation avec Augusta Bernard, née le 18 avril 1907. Donc, elle avait 7 ans de plus que lui. Elle est née à Annonay, dans le nord de l'Ardèche. Jusqu'en mars 1943, notre père fondateur et Augusta Bernard ne s'étaient jamais rencontrés. Ils ne se connaissaient donc pas. Notre fondateur a été nommé vicaire de la paroisse Notre-Dame d'Annonay en septembre 1942. Il avait été ordonné prêtre le 29 juin 1941, une première mission de vicaire d'abord à au sud du département, pour Saint-Andéol. Et en septembre 1942, il est nommé vicaire de la paroisse Notre-Dame d'Annonay. En mars 1943, le conseiller spirituel d'Augusta Bernard, qui est un Breton, le père Le Charles, repart pour la Bretagne. Les Allemands ont franchi la Loire, et donc on n'est pas plus en sécurité au nord de la Loire qu'au sud de la Loire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il repart en Bretagne. Et il demande à notre fondateur d'aller visiter Augusta Bernard, à qui, dit-il, il a donné tous les sacrements, ce qui signifie qu'elle est aux portes de la mort. Donc elle a reçu le sacrement de l'Eucharistie, de l'extrême-onction, etc. Cette visite que le père avait surnommée banale, visite banale, va être le début d'une collaboration qui ne sera en acte, en fait, qu'à partir du 16 juin 1945, donc que 2 ans plus tard. Parce que pendant 2 années... Augusta Bernard ne s'est pas précipité pour se mettre sous la direction spirituelle de notre fondateur, et notre fondateur ne s'est pas non plus précipité pour collaborer avec une femme. L'un et l'autre n'en avaient rien à faire de cette collaboration. Le père voulait partir en Afrique pour être missionnaire en Afrique. Et Augusta Bernard ne voulait surtout pas se mettre sous l'autorité d'un prêtre. Voilà. Donc, pendant 2 ans, le père voit, on peut dire, la vie spirituelle de Mère Marie-Augusta, qu'il ignorait complètement. Et ce qu'il ignorait, c'est que ce mois de mars 1943... avait obtenu à Augusta, sans que celle-ci lui dise quoi que ce soit, des grâces de santé. Voilà. Donc, lui s'était dit, je la vois à la messe le dimanche alors qu'elle était mourante, donc elle n'était pas si malade que ça. Voilà ce qu'il s'était dit. Donc, mais c'est que petit à petit, il va comprendre je dirais, tout le désir de Mère Marie-Augusta. Je vous cite ce que disait notre fondateur sur ses propres inspirations pour notre nouvelle fondation en septembre 1980. J'ai été prédisposé à une vocation religieuse par ma famille, par ma mère qui tenait à sa messe quotidienne, mais ce qui m'a formé beaucoup plus profondément, ce fut le scoutisme. Je m'y suis beaucoup donné. Dès mes 14 ans, je lisais la revue Le Chef, dirigée par le père Sevin. Alors, ceux qui sont responsables du scoutisme, ici, il y en a plusieurs parmi vous, que ce soit du scout d'Europe, que ce soit des scouts unitaires, que ce soit un scout de France, etc. Je vous encourage à rechercher et à remettre dans vos archives ces revues Le Chef que donnait le Père Sevin. Parce que ça, c'est cela qui a vraiment conquis notre fondateur. Ces articles de fond sur le scoutisme, sa philosophie, sa pédagogie, ses perspectives spirituelles m'intéressaient beaucoup. Les vertus héroïques du Père Sevin ont été déclarées, donc il manque maintenant un miracle pour qu'il puisse être béatifié. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le scoutisme, le Père Sevin était un jésuite. Et les jésuites lui avaient demandé, même si c'était peut-être le Père Sevin, mais d'aller en Angleterre voir ce qui se passait avec Baden-Powell, avec ce qu'il imaginait comme œuvre de jeunesse, savoir si on pouvait adopter le scoutisme dans les œuvres de jeunesse de l'Église catholique. Donc il est resté plusieurs mois en Angleterre, et quand il est revenu, il a dit oui, on peut faire du scoutisme dans l'Église catholique. Et c'est là qu'on voit l'esprit très large de Baden-Powell, qui était un anglican, mais pas tellement religieux, mais qui avait un esprit très large et qui s'est beaucoup réjoui de ce que le scoutisme catholique se soit ainsi développé. Il n'a pas été du tout jaloux. Et donc, le scoutisme dit catholique, on le doit au Père Sevin. Voilà, c'est lui qui a, on peut dire, donné la charpente, donné l'âme à ce que Baden-Powell avait eu comme intuition. Donc, bien avant la guerre, vers 1930, le Père Sevin avait écrit une série d'articles sur ce qu'il appelait l'ordre scout, présentant une possibilité d'envisager une vie religieuse selon les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, inspirés par ce que nous appelions l'esprit scout. Vie religieuse orientée vers l'éducation et la mission, dans un esprit chevaleresque. Les membres de cet ordre scout devaient être formés selon la pédagogie scout, éducation des caractères, éducation à l'action, pour l'épanouissement des cœurs et des âmes. Ce projet d'ordre scout m'avait beaucoup intéressé. Cela m'avait poussé à approfondir ma connaissance de la vie religieuse, celle des bénédictins grâce à plusieurs petits séjours à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, donc qui est en Ardèche, hein, c'est là où a été Charles de Foucault, celle des franciscains, car le scoutisme des plus petits était sous le patronage de Saint François, et Joseph Ollier, compagnon de Saint François, écrivait la spiritualité de la route. Celle aussi de la Société de Jésus, car le Père Sevin était jésuite, d'où un certain intérêt pour l'œuvre de Saint Ignace. Et la perspective d'une nouvelle famille religieuse me faisait réfléchir sur une spiritualité profitant des développements de la pédagogie de notre temps. Je trouvais qu'il y avait dans le scoutisme, mais aussi dans les autres œuvres d'action catholique, de jeunes et même d'adultes, des éléments de pédagogie dont les religieux devraient profiter pour leur propre formation et pour l'apostolat. Cela permettrait de faire du nouveau, qui serait cependant bien en accord avec la grande tradition de la vie religieuse. Ces pensées m'ont poursuivi jusqu'à ce que je sois prêtre et ne m'ont pas quitté quand j'ai été d'abord vicaire à Bourg-Saint-Andéol et ensuite à Notre-Dame d'Annonay. À Annonay, j'avais l'expérience de l'animation spirituelle de beaucoup de groupes de jeunes. Je me suis rendu compte surtout d'une fréquente insuffisance de la formation spirituelle. Parfois, on glissait vers l'humain, le trop humain. Notre père fondateur, cependant, n'envisageait pas d'être lui-même le fondateur d'une nouvelle communauté dirigée par un père et une mère. Il a imité Saint Joseph, qui n'avait pas du tout envisagé d'être le chef de la Sainte Famille. Et il a toujours obéi à Dieu, qui lui a parlé à travers les événements ordinaires de la vie. Il a d'abord été conquis par les qualités de chef et d'éducatrice d'Augustin Bernard dans les années 44 à 45. Cela l'a poussé à lui confier la direction de l'équipe Notre-Dame-des-Neiges qu'il avait fondée à Annonay pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, cette équipe Notre-Dame-des-Neiges, elle était toute petite, hein, c'était pas les œuvres de Dieu commencent toujours par... il était vicaire, son curé avait été arrêté par la résistance. Nous avions une résistance communiste en Ardèche qui dépendait d'Entraigues. Vous avez entendu parler d'Entraigues, Jean Ferrat, voilà. Donc, et il suffisait de prononcer le nom de Pétain, ce qu'il avait fait à l'église, pour être condamné à mort par la résistance. Voilà. Bon, le père avait obtenu qu'on ne fusille pas, mais il était emprisonné. Donc il s'est retrouvé avec une grosse paroisse, beaucoup de... Et voilà, et c'est comme ça que... Comment s'occuper de toutes ces jeunes filles qui étaient assez nombreuses? Et parmi elles, il y avait certaines qui cherchaient justement une nouvelle forme de vie consacrée. Elles faisaient de l'action catholique et tout. Alors c'est comme ça que le père leur avait dit, bah, écoutez, on va faire une équipe appelée Équipe Notre-Dame-des-Neiges. Parce que le nom d'équipe était un nom qui était très répandu à ce moment-là. Il y avait les équipes de Madeleine d'Herbrel, il y avait les équipes des prêtres de mission, il y avait les équipes de Charles de Foucault, enfin voilà, le mot équipe, donc il ne faut pas être étonné de ce mot équipe. Équipe Notre-Dame-des-Neiges, parce que dans le scoutisme, le père avait reçu cette dévotion à Notre-Dame-des-Neiges, et donc toutes les semaines, cette petite équipe, les 4, 5, 6, se réunissait avec une discipline de vie, avec une consigne de spiritualité, avec voilà, une formation, etc. Et elle n'avait aucune ambition de devenir une communauté religieuse. Aucune ambition. C'était simplement pour se mettre voilà, sous l'autorité de Notre-Dame-des-Neiges, pour qu'elle guide les choses et qu'elle voit un petit peu ce qu'elles allaient devenir chacune. Donc, le père, après la mort de celle qui était devenue Mère Marie-Augusta, parce que elle s'appelait Augusta Bernard, Bernard c'était son nom de famille, et ensuite elle va devenir Mère Marie-Augusta une fois qu'elle va être responsable de l'équipe et surtout de la communauté après, a retransmis ses appels à la joie de notre mère. « Mes filles, écrivait-elle, formez-vous à la sollicitude, à la spontanéité, à l'amour, à la joie trouvée dans le don de soi. Je souffre, mais par amour pour Jésus, j'ai de la joie dans ses souffrances. Ce qu'il nous faut, c'est une famille, une affection vivante, un besoin constant de partager le pain quotidien, amer ou non, l'inquiétude de nos inquiétudes, la joie de nos joies. » Voilà, on peut dire que dans un premier temps, le père et Orissa Bernard ont pensé à une équipe missionnaire. Et ce n'est que après que Mgr Coudert ait donné l'accord pour une nouvelle forme de vie consacrée, l'installation à Saint-Pierre-de-Colombier, ce n'est que là que vraiment Mère Marie-Augusta, dans son union au cœur de Jésus, a eu cette intuition très forte. Ce n'est pas une équipe que Jésus voulait, c'est une famille missionnaire, voilà. Donc, vous ne devez pas être une équipe, mais une famille, voilà. Et c'est pour ça que cette famille, bien sûr, elle n'est pas comme vos familles qui sont fondées sur le sacrement du mariage. Elle est une famille de religieux. Elle est une famille dont le modèle, c'est la Sainte Famille. Mais déjà, on voit très bien que Mère Marie-Augusta est le fondement, c'est elle qui reçoit les inspirations du cœur de Jésus, et que là, voilà, elle trouve vraiment ce qu'il nous faut, c'est une famille, une affection vivante, un besoin constant de partager le pain quotidien, amer ou non, l'inquiétude de nos inquiétudes, la joie de nos joies. L'esprit de famille, c'est cela. L'esprit de famille doit engendrer la joie. Notre père fondateur disait encore, Dieu a voulu qu'elle soit une mère de famille, qu'elle vive une vie de famille et la fasse vivre avec un besoin constant de partager le pain quotidien, amer ou non, l'inquiétude de ses inquiétudes, la joie de ses joies. Croyons que plus nous avons des relations vivantes avec Jésus, plus nous l'aimons, plus il s'en réjouit. Plus nous péchons, plus il en souffre. Plus nous demandons pardon avec beaucoup de contrition d'amour, plus sa miséricorde est touchée, plus encore il nous aime, nous pardonne et veut nous donner sa grâce. Il nous aime follement, comme aucun cœur de pauvre humain ne peut aimer. Le père de la parabole de l'enfant prodigue représente Jésus, mais aussi le Père céleste, qui se réjouit profondément du retour de son enfant pécheur et dit à tous, à son fils aîné en particulier, « Il faut se réjouir ». Comme Mère Marie-Augusta l'a fait, c'est vers Jésus que nous devons aller chercher refuge. Et c'est lui qui sera notre grand soutien dans les tribulations de toutes sortes. Son amour puissant et aussi sa vigilance à notre égard qui ne fera jamais défaut, nous donnera la grâce nécessaire et la paix surnaturelle qu'il donnait aux apôtres le soir du Jeudi Saint, à quelques heures de son arrestation. Vous donc, maintenant, vous avez de la tristesse, mais je vous reverrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne pourra vous enlever cette joie. Dans le livre « Vers le roi d'amour » du père Matteo, écrivait notre fondateur, nous lisons cette audacieuse pensée. Pour imiter en quelque sorte la générosité de son amour, qu'il y ait entre Jésus et nous une rivalité, une admirable lutte, il est consolant de penser qu'il peut y avoir entre Dieu et nous une sorte d'égalité. Mère Marie-Augusta ne pouvait que se réjouir d'une de ces pensées folles d'amour, faire la course de l'amour avec Jésus. Et bien sûr, cela ne peut se faire qu'en courant à la poursuite de Jésus, lui-même et par sa grâce, en s'efforçant de le suivre dans cette course à l'amour. Alors, plusieurs d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler du Père Matteo, je pense, et de ce livre « Vers le roi d'amour ». Je pense que si vous ne le connaissez pas, ça peut avoir de l'intérêt à le découvrir. Voilà, parce que le père Matteo a reçu sa mission au début du XXe siècle dans la chapelle de la Visitation de Paris le Monial. Donc le père Matteo, son père était anglais. Sa maman était entre le Pérou et le Chili. et il disait être né sur un volcan. Voilà, sur les rives d'un volcan. Donc il avait un tempérament volcanique. Il est rentré chez les pères du Picpus, du Sacré-Cœur, et à Paray-le-Monial, il a reçu une locution intérieure de Jésus qui lui a demandé d'être le prédicateur pour l'instauration du culte du Sacré-Cœur dans les familles. Voilà, c'est lui qui a été le grand apôtre de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Et c'était un prédicateur exceptionnel. Il a prêché en Espagne, il a prêché en France, il avait des milliers de personnes qui venaient l'écouter. Et grâce à lui, eh bien, le Sacré-Cœur a pénétré dans les familles. Voilà. Donc, je vous recommande ce livre Vers le roi d'amour. C'est un livre très, très simple. Mais c'est très beau, c'est très beau. Et Mère Marie Augusta et le Père, eh bien, ont apprécié ce Père Matteo. C'est le recueillement état de prière, disait notre fondateur, qui est la grande source de la vie de l'âme du consacré à Dieu. Vie épanouie par la foi et l'amour, et conduisant à la vie éternelle qui sera le partage de la vie de Jésus, le Verbe de Dieu. Le recueillement, s'il est véritable, c'est-à-dire détachement de soi pour être tout à Dieu, nous rend aussi d'une façon inséparable ouvert aux autres et ardent de charité. C'était vrai même pour Jésus. Ce recueillement l'a rendu et nous rend avec lui tout aux autres. C'est la contemplation incessante de son Père qui a été la source de tout son propre don. Notre mère disait encore « Jésus nous apporte la paix et la joie. La sollicitude divine est notre joie. Bientôt nous connaîtrons la joie du ciel. » Nos fondateurs au cœur du XXe siècle ont compris que Dieu les appelait à vivre la pauvreté évangélique à l'école de Saint François d'Assise, pour vivre de la divine providence dans la joie franciscaine. On n'était pas triste avec Saint François d'Assise. On n'était pas triste avec nos pères et mères qui ont cherché à imiter le grand saint de la joie qui a été Saint François. Et nous pouvons en témoigner qu'ils l'ont imité en vérité. Je n'ai pas connu Mère Marie Augusta, elle est morte le jeudi saint 1963, c'était le 11 avril. Mais par contre, j'ai connu pendant plus de 30 ans notre père fondateur. Et c'est par lui que j'ai connu Mère Marie Augusta et aussi par Mère Madeleine. Mère Marie Augusta disait « Je dois vous apprendre le véritable amour, la véritable confiance en la Providence, la connaissance parfaite de sa délicatesse, de sa sollicitude. Elle veille et prie sans cesse sur ses fidèles amis. » Notre fondateur commentait ainsi. Il faut une véritable confiance en la Providence. Cette confiance ne serait pas véritable si elle était insuffisante ou si elle était passive, fataliste. Il faut aussi en louer Dieu avec grande reconnaissance, admiration et amour. Nous pouvions considérer la Providence comme une personne. On enseigne habituellement en théologie qu'elle est un attribut de Dieu créateur. On peut aussi la comprendre comme une expression vivante du Verbe divin, du Fils de Dieu qui, comme lui, veille et prie, agit avec délicatesse, avec sollicitude, et exerce cette sollicitude tout spécialement sur ceux qu'il aime, ceux qui se donnent à lui, en faisant vœu de pauvreté en toute confiance en lui. Ce n'est pas en contradiction avec l'action divine du Créateur qui veille sur ses créatures, mais c'est une présentation de la Providence comme une amie des hommes, dans sa sollicitude et sa délicatesse, dans l'aide qu'elle leur apporte. Cela exprime bien combien Dieu est amour. Dans le cours de la vie de ses enfants, il les a créés par amour et il veille sur eux. La providence est donc un attribut de Dieu le Père qui agit par Jésus. Jésus, dont le nom signifie « Dieu sauve », Jésus qui est le Fils de Dieu lui-même, priant et agissant pour nous. Mais aussi avec lui et à son service, ce sont tous les grands vivants du ciel, la Vierge Marie, les saints, les anges, tous instruments de Dieu, veillant et priant pour nous, et agissant d'autant plus que nous serons plus aimants, plus priants, plus confiants, plus abandonnés aux volontés divines. Notre dévotion et reconnaissance envers la divine providence sera ainsi un sentiment très vivant, très personnel, qui s'adressera à Dieu le Père, agissant par son Fils bien-aimé. Il est celui qui intercède sans cesse auprès du Créateur. Il est extrêmement attentif et aimant. Mère Marie-Augusta était toujours très enthousiaste de la sollicitude de la divine providence et de la sollicitude, bien sûr, qui se manifeste par vous, par nos amis. Et chaque fois que, je dirais, quelqu'un apportait un don providentiel, ne serait-ce que 2 ou 3 salades, eh bien, elle remerciait avec toujours beaucoup d'enthousiasme. Parce que il fallait une foi très grande au cœur du XXe siècle pour dire on veut vivre la pauvreté comme Saint François d'Assise. Donc la pauvreté comme Saint François d'Assise, c'est de vivre sans compte en banque. On est bien obligé d'avoir un compte en banque. Mais je veux dire, en dépendant chaque jour de la divine providence. Nous pourrions, puisque nous sommes maintenant 160, nous pourrions avoir 100 frères et sœurs qui seraient, qui recevraient un salaire, qui travailleraient, qui feraient vivre la communauté. Eh bien, nous le refusons, parce que nous ne vivrions plus la providence. Voilà. Donc, nous devons faire du travail gratuit. Bien sûr, travail gratuit en animant un sens spirituel, etc. Hein? Mais nous n'avons aujourd'hui aucun salarié, sauf les 2 prêtres qui sont en Alsace. Puisqu'en Alsace, les prêtres sont assimilés aux fonctionnaires. Puisqu'il y a encore un concordat en Alsace. Voilà, c'est tout. Eh bien, je prends l'exemple, par exemple, des charges sociales. Comme nous avons des jeunes, et on en rend grâce à Dieu, eh bien, nous sommes, bien sûr, nous devons payer nos charges sociales. Alors, pour nous, on est à la CAVIMAC. La CAVIMAC, c'est comme la sécurité sociale et la caisse retraite, mais pour le clergé et les religieux. Voilà. C'est une entente entre l'État français et les évêques de France. Voilà. Donc, sachez que la CAVIMAC, aujourd'hui, nous coûte plus de 50 000 euros par mois. Donc, multiplié par 12 mois, ça nous fait plus de 600 000 euros, rien que pour les charges sociales. Plus de 600 000 euros. Notre comptable, chaque mois, elle arrive à payer plus de 50 000 euros. Comment ça se fait? Par les dons providentiels. Mais pour vous dire, c'est un miracle de tous les jours. C'est un miracle de tous les jours. Vous avez pu remarquer quand même qu'on mange et qu'on mange bien. Les frères et les sœurs ont bon appétit. Et il y a de quoi, parce que même pas, dans le, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un prêtre qui n'y croyait pas. Il n'y croyait pas, donc on se disait, ces pauvres filles qu'ils ont avec Augusta Bernard, elles vont dépérir, voilà. Alors donc, il venait au moment du repas pour voir s'il y avait quelque chose dans les assiettes. Et il a été quand même très surpris de voir qu'il y avait toujours quelque chose dans les assiettes. Voilà. Et on peut dire des miracles, ça a été tous les jours. Ça a été tous les jours. Voilà, des personnes qu'on ne connaît pas qui viennent apporter ceci et qui était nécessaire pour accueillir les personnes qu'on avait à accueillir au repas, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est tous les jours que nous vivons de la Providence. Tous les jours. Voilà. Bien, tout ça, tout simplement parce que nos fondateurs ont voulu que nous vivions justement de cet esprit de Saint François d'Assise qui, voilà, il voulait que on dépende chaque jour de la divine providence. On n'a pas les réserves qu'il nous faut, non, c'est, voilà. Ça demande un acte de foi, mais ça a comme fruit une joie profonde. Et vraiment, Mère Marie Wessa et le Père avait cette joie profonde, cette reconnaissance profonde en la sollicitude de la divine providence. Voilà. Notre dévotion et reconnaissance envers la divine providence sera ainsi un sentiment très vivant, très personnel, qui s'adressera à Dieu le Père agissant par son Fils bien-aimé, disait le Père. Il est celui qui intercède sans cesse au prix du Créateur pour nous. Il est extrêmement attentif et aimant. Il faudra que les apôtres de l'amour soient de fidèles admirateurs de la Providence, qu'ils aient en elle une confiance indéfectible, un abandon total à toutes ses dispositions, si crucifiantes qu'elles puissent paraître. C'est d'ailleurs ainsi que la Providence pourra agir d'une façon merveilleuse. Dans notre vie religieuse, dès ce début et ensuite, nous avons toujours constaté, disait le Père, avec admiration et grande reconnaissance, combien la Providence a veillé très concrètement, très visiblement, sur nos besoins temporels, et vrais miracles perpétuels et preuves éclatantes de la sollicitude de Dieu. Mais cette compréhension de l'action providentielle, disait encore notre fondateur, ne doit pas être étroite, restreinte à la considération de l'aide temporelle qu'elle nous apporte sensiblement. Cette action est très large, diversifiée, et peut être paradoxale quand, par exemple, elle nous apporte la maladie ou une pauvreté pénible, ou encore quand elle nous affronte à des tribulations de toutes sortes, des contrariétés, et en résumé, la croix. Il faut en cela aussi comprendre que c'est l'amour de Dieu qui le veut pour nous, pour notre sanctification, pour la fécondité de notre vie, pour l'union vitale à notre Sauveur. Je vous donne un exemple aussi au sujet de la croix. Donc notre Mère Marie Augusta est décédée le jeudi saint 1963, et 2-3 ans après, c'est le Père qui était aux portes de la mort. Il pensait qu'il allait mourir, il a reçu le sacrement, il avait reçu l'extrême onction, et il se préparait à mourir. Avec Mère Madeleine, ils étaient allés quelques mois avant rencontrer le Padre Pio, parce que ils avaient besoin de recevoir un peu une consolation. Avec la mort de Mère Marie Augusta, il y avait 9 sœurs. Mais qu'est-ce que... Voilà. Alors, le Père avait pu rencontrer le Padre Pio, mais le Padre Pio était sous le coup on peut dire des condamnations qu'il avait, et les capucins ne lui laissaient que trois minutes pour les confessions. Voilà. Donc au bout de 3 minutes, manu militari, vous étiez sorti du confessionnal, et voilà. Ça permettait au Padre Pio de confesser pas mal de monde. Bon. Mais c'était pas le but recherché. Alors donc le père avait pu voir 2 minutes, 3 minutes le Padre Pio se confesser. Le Padre Pio avait dit j'ai compris, voilà, et donner l'absolution. Les prêtres qui sont moins patients que les dames, bon, pouvaient rencontrer le Padre Pio dans la journée. Les dames devaient attendre 15 jours. Voilà. Donc il y en avait qui attendaient 15 jours avant de pouvoir se confesser avec le Padre Pio. Alors évidemment, Mère Madeleine ne pouvait pas attendre 15 jours. Mais elle avait pu parler avec une fille spirituelle du Padre Pio, qui était libraire à San Giovanni Rotondo, et elle avait pu lui dire pourquoi ils étaient venus à San Giovanni Rotondo, et cette libraire lui a dit, ben écoutez, si un jour vous avez quelque chose à demander au Padre Pio, écrivez-moi, je le rencontre quand je veux, et ainsi je vous donnerai la réponse. Donc le père mourant et Mère Madeleine écrit à cette libraire pour dire, écoutez, le père va mourir, qu'est-ce que nous allons devenir ? Réponse du Padre Pio, il a répondu tout de suite. Il a dit, le père d'Orne doit être comme moi sur la croix. Alors il s'est dit, si je suis sur la croix, je ne vais pas mourir. Donc ça a été pour lui une grande confiance, une grande espérance. Voilà. Donc il a eu beaucoup de difficultés, c'est vrai. Mais il a été patient, il a été persévérant. Alors, tout à l'heure, en parlant avec Cédric, hein, qui est viticulteur, sachez que je comprends votre angoisse quand on voit que tous ces raisins sont en train de brûler à cause du soleil, et que sera la récolte. Je comprends votre angoisse, et croyez bien que on va pas dire faites confiance à la Providence, n'ayez pas peur, la Providence sera là. Oui, mais c'est vrai que aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'entre vous sont inquiets face à l'avenir. Vous êtes inquiets, c'est évident. Vous avez vos enfants à éduquer. Est-ce que j'aurai encore du travail dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce que... Oui, donc, tout ce que je vous dis là, vous dites, oui, c'est beau, mais ça va bien pour vous, mais est-ce que pour notre famille, la Providence va agir? Eh bien là, le père disait oui. Il faut avoir confiance à la Divine Providence. Il faut avoir confiance à la Divine Providence. Et ce que la Divine Providence fait pour nous, elle le fera pour vous. Ça, c'est évident, elle le fera pour vous. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Hein? Et je termine. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que j'ai perdu un certain nombre de choses que j'avais préparées et que je ne retrouve plus. Voilà. Bon, mais le plus important, c'est cela. La joie dans notre famille Dominie, malgré la croix, et en même temps, c'est la croix qui nous donne cette joie profonde. Vous savez, vous avez entendu parler un peu de tous les déboires que nous avons, puisque nous avons fait ce site, nous avons sur ce site, en l'honneur de Notre-Dame-des-Neiges, nous voulons construire le sanctuaire du Cœur Immaculé de Marie. Je savais bien qu'en mettant voilà, en ouvrant ce chantier, nous allions, mettre l'enfer, nous allions le déchaîner. Bon, donc tout ce qui se passe, c'est cela, c'est le déchaînement de l'enfer qui veut empêcher cette construction du sanctuaire du cœur immaculé de Marie, qui veut empêcher le développement de la communauté, mais nous n'avons pas peur, parce que c'est pas notre œuvre, parce que c'est l'œuvre de nos fondateurs, parce que c'est l'œuvre que Jésus a voulu. Donc l'enfer peut se déchaîner, mais il est déjà vaincu. Voilà. Donc c'est cela qui doit toujours nous donner cette confiance et cette joie. Aucune épreuve ne doit nous faire perdre cette joie. Voilà, aucune. Frère Clément Marie vous a cité pas mal d'exemples de saints, comme Thomas More par exemple, qui avait beaucoup de sérénité, mais il n'empêche que la veille de sa mort, il avait quand même peur aussi. Hein? Voilà. Quand il écrit à sa fille, tout en étant dans la sérénité, il y a l'angoisse. Hein? Donc, si vous voulez, la Sainte Vierge et Saint Joseph ont connu les angoisses. Hein? On voit très bien, lorsqu'ils ont perdu pendant 3 jours Jésus, ils étaient angoissés. Et même Anne-Catherine Marie, qui a reçu un peu des lumières justement sur ces événements évangéliques, dit que Saint Joseph était tellement angoissé qu'il ne pouvait pas dire un mot quand ils ont retrouvé Jésus. C'est la Sainte Vierge qui a parlé. Voilà. Et ils ont été angoissés. Quand il fallait partir en Égypte parce que Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, ils sont partis angoissés. Hein? Donc on peut, c'est pour ça que quand je vous parle de cette joie, de cet abandon à la divine providence, ça n'enlève pas l'angoisse. Si vous ressentez l'angoisse devant telle ou telle situation, devant la perte de votre travail, en se disant que comment on va faire demain pour éduquer nos enfants, voilà la situation qui vient de se vivre aussi la semaine dernière avec ces ordinations épiscopales, avec tout ça aussi, ça peut, puisque parmi vous il y en a qui ont fait le choix de mettre leurs enfants dans des écoles Saint-Pie-X, parce que sinon ils n'ont pas trouvé d'école qui transmettrait une éducation chrétienne. Eh bien, je vous comprends. Et je comprends aussi que, l'acte qui a été posé est un acte schismatique. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, je comprends très bien que plusieurs parmi vous, vous êtes angoissés pour l'éducation de vos enfants. Parce que vous voudriez garder leur innocence, vous voudriez et puis vous savez très bien que à l'école ils vont rencontrer des copains, ils vont rencontrer des copines, qui vont leur transmettre des cochonneries, qui vont et nous comprenons très bien que c'est pas le signe que vous avez pas confiance en la providence. C'est pour ça que je voudrais dire si je vous cite. Cette confiance à la Providence qu'avaient le Père et Mère Marie-Eustache, ils avaient aussi leur angoisse. Hein. Ils avaient aussi leur angoisse. Vous savez, avant de se lancer dans une construction, ils réfléchissaient à 2 fois quand même. Ils priaient. Ils savaient, voilà. Bon, quand on a commencé notre projet, moi je ne voulais pas savoir combien ça coûterait. Bon, mais Hubert, qui était notre architecte, me dit, si, on est obligé. Bon. J'ai vu le chiffre, l'ensemble, hein, pas simplement le sanctuaire, mais puisque nous trouvons devant un terrain qui était agricole et qu'il faut, il faut tout bâtir, il faut tout construire pour, bon. J'ai vu 20 millions. Hein. faut pas croire que, on va dire, ça repose sur celui qui signe. Là, je vois que j'ai un architecte en face de moi, il le sait très bien. Il y en a un qui est responsable et qui signe. J'ai dit, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de me lancer dans cette aventure? J'avais pas les 20 millions. J'avais pas les 20 millions. Et en même temps, il est dit dans l'Évangile, quand on a mis la main à la pâte ou quand on a décidé quelque chose, eh bien, on revient pas en arrière. Alors j'ai dit, j'ai vu Mère Madeleine, qui était à ce moment-là vivante. Et j'ai dit à Mère Madeleine, écoutez Mère Madeleine, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, on a dit oui. On a fait un acte de foi. Voilà. Et c'est tous les jours, on peut dire tous les jours pareil. Bon, on va pas dire un garçon et une fille qui vont rentrer dans la communauté, on peut pas vous prendre parce que on pourra pas payer les charges sociales. Si. La Providence nous permettra de les payer. Donc, je voudrais dire à Cédric et aux viticulteurs, vous êtes les victimes du péché de la France. Et vous avez raison de dire ce que on est en train de vivre pour vous, ça ressemble à ce que la Sainte Vierge avait dit à la Salette. Les pommes de terre vont pourrir, les récoltes vont être détruites. Et tout ça pourquoi? Parce que les baptisés ne vont plus à la messe, ne respectent pas les commandements de Dieu. Et donc aujourd'hui, vous voyez où on en est en France. On a inscrit l'avortement dans la constitution de la Ve République. De toute manière, ça c'est un acte signé d'Emmanuel Macron, qui est un acte de mort pour la Ve République. Comment peut-on inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement? Comment est-ce possible? Alors que nous, on se vante d'être liberté, égalité, fraternité, de défendre les droits de l'homme, et le droit à la vie, c'est le droit de l'enfant à vivre dans le sein de sa maman, c'est le droit le plus absolu. Voilà. Aujourd'hui, on veut absolument faire passer le droit à l'euthanasie. Or, le Sénat vient de refuser trois fois ce projet de loi. Les médecins sont contre. Le peuple de France est contre, puisqu'on ne veut pas lui donner le référendum auquel il aurait droit. On a le droit de nous exprimer. Pourquoi le Conseil constitutionnel a dit que non pour un référendum? Voilà. Et donc, on sait très bien d'où vient la chose. On sait très bien que ce projet de l'euthanasie était déjà dans le livre de Pierre Simon en 1979, de la vie avant toute chose. Pierre Simon l'a dit très clairement, ce n'est plus Dieu qui le met de la vie, c'est nous. La vie est une production humaine. Donc si la vie est une production humaine, on a droit à faire vivre qui on veut, à supprimer qui on veut. Voilà où on en est. Eh bien, pour moi, c'est vrai, ce que nous vivons aujourd'hui avec le climat, c'est la Salette qui nous en a donné l'interprétation. Bon, il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras. C'est pour ça que si on a fait cette session sur la joie, c'est parce que c'est très important qu'on reste dans la joie, on reste dans la joie de se dire Jésus est le Tout-Puissant, Jésus ne nous abandonnera pas. Oui, peut-être que nous aurons des moments plus difficiles, ça c'est possible. Bon, la France en a vécu des moments difficiles, elle a vécu deux guerres mondiales, et ceux qui sont de ma génération, nous avons entendu nos grands-parents, tous les 11 novembre, ils avaient leur banquet. Et de quoi parlaient-ils chaque fois qu'ils se retrouvaient? Ben, ils parlaient de la Première Guerre mondiale, ils parlaient de ce qu'ils avaient vécu dans les tranchées et ce qu'avait fait Verdun. J'entends encore mon cousin, mon grand-père, surtout ce cousin qui avait fait Verdun, qui avait dit pendant tout le mois de février, ils ont eu moins 30 dans les tranchées, tout le mois de février. Et il avait dit, jamais je me plaindrai de la chaleur. Jamais je ne me plaindrai de la chaleur. Voilà. Donc, eh bien, voilà, on a réussi à passer ces moments difficiles. Bon, c'est possible qu'on soit un moment difficile. Bon, un d'entre vous m'a fait voir un avocat qui vient d'écrire à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre qui voulait être religieux. Voilà, Monsieur le Premier ministre qui va à la messe, Monsieur le Premier ministre, il paraît qu'il communie à genoux sur la langue, ça c'est très bien, mais Monsieur le Premier ministre, il veut qu'il ait le courage de dire à Monsieur Macron, le 15 juillet, moi je ne veux pas qu'on vote le 15 juillet, c'est pas possible. Le Sénat vient de dire non pour trois fois, les médecins sont contre, le personnel soignant est contre, la France est contre, on va pas faire passer cette loi. On ne va pas faire passer cette loi parce que la franc-maçonnerie veut la faire passer. Voilà, c'est tout simplement cela. Et donc, peut-être qu'encore la Providence va encore peut-être agir. Voilà, il faut continuer à prier. Le 8 décembre 1947, la France était... allait tomber dans le régime communiste. Voilà, les communistes avaient totalement, on peut dire, possédé tout, la France et tout. Et puis, voilà que la Sainte Vierge apparaît à l'île Bouchard, à des petits-enfants. Et elle leur demande, est-ce que vous voulez prier pour la France? Comment des petits-enfants vont pouvoir sauver la France? Eh bien, ils ont dit oui. Et la France a été sauvée, les communistes n'ont pas pris le pouvoir. Et s'ils avaient pris le pouvoir, ben, c'était très mauvais pour nous, hein. C'est évident. Voilà. Alors, demandons à la Sainte Vierge de faire quelque chose, hein. Voilà, pour qu'elle empêche au moins que cette loi soit votée le 15 juillet. On peut encore peut-être l'espérer. Voilà. Il faut continuer à prier pour ça. Voilà. Alors bon, je suis un peu loin de mon sujet. Je suis désolé, mais voilà. Alors, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que nos fondateurs ont fait ce choix joyeux de la belle aventure évangélique. Et j'espère que cette session vous permettra de mieux le comprendre. Bon, voilà, il y a des choses qui vont être redites d'une manière différente, mais c'est normal, on dit tous, on peut dire, les mêmes réalités, voilà. Mais petit à petit, ça va vous aider. Si vous voulez approfondir encore davantage cette joie, nous allons commencer ce 2 août à Saint-Pierre-de-Colombier, jusqu'au vendredi 7 août, un nouveau thème de retraite spirituelle dont le thème sera la joie de l'Évangile. Voilà. Le fondement de la vraie joie, la joie durable, la joie que nul ne pourra nous enlever parce qu'elle vient de Jésus. Alors, vivons la joie de l'Évangile que nos pères et mères ont vécu avec nos premières sœurs et ne perdons pas la jeunesse de cœur et l'humilité. Ne cessons pas enfin de nous émerveiller devant la délicate sollicitude de Dieu à notre égard. Écoutez, maintenant, nous pouvons nous diriger vers l'Église pour chanter les complis, comme ça,